Rouletabille chez les Bohémiens, chapitre 10e. Le retour. 1. Où Rouletabille déclare qu'il ne peut s'enfuir sans son nécessaire de voyage et de ce qu'il en advint. Le caravansérail pouvait, à cette heure, être comparé à une immense cuve où bouillonnait la fureur populaire. Les cigains du territoire venaient de passer par de telles alternatives d'enthousiasme et de désespoir qu'il ne fallait rien de moins qu'un incident, comme celui du vol du livre des ancêtres par des roumis, pour les pousser aux pires extrémités. De l'aventure prodigieuse de la Kéra, il leur restait cette sombre conviction, génératrice de toutes les fureurs, qu'ils avaient été bernés. Et par qui, sinon par les roumis? Zina n'avait été que l'instrument des étrangers dans cette affaire, où, en fin de compte, on avait voulu leur imposer une fausse reine. Les Lingurari, fabricants de cuillères et de vases de bois, et les Liaessi, qui forment la classe la plus misérable, mais aussi la plus turbulente, parce qu'ils n'ont rien à perdre, n'ayant rien su mettre de côté au cours de leur vagabondage, s'unirent pour réclamer l'expulsion immédiate de tous les gâchis, étrangers à la race, préalablement dépouillés de leurs biens, et ils trouvèrent le patriarche assez disposé à signer un décret de cette nature, dans le désir où il était d'éviter de plus grands malheurs. C'est alors qu'Hubert, voyant que décidément Jean et Odette allaient lui échapper, imagina toute l'affaire du livre volé, après avoir glissé le fatal bouquin dans le bagage de Jean. Calista, entraînant Andrea, se mit à la tête du soulèvement qui menaçait de tout emporter. La milice laissait faire et les balogards s'enfermaient chez eux avec leurs trésors. Le conseil des vieillards se tenait en permanence au palais. Le docteur de la bibliothèque avait constaté le crime. L'affaire était d'une gravité consternante pour le patriarche, qui se demandait comment il pouvait se tirer de là sans ordonner les supplices rituels, ce qui, naturellement, ne manquerait pas de lui attirer quelques ennuis avec les puissances étrangères. Il souhaitait ardemment que Rouletabille et ses amis, auxquels il avait donné le conseil de déguerpir au plus vite, eussent pu s'échapper. « Nous voilà propres !» s'était exclamé le reporter. Mais comme, suivant sa coutume, il connaissait admirablement les êtres de la bâtisse qui momentanément les abritaient, il eut au fait d'entraîner avec lui Jean et Odette dans un petit escalier de service qui ouvrait sur les derrières de l'hôtel, du côté opposé au caravansérail. Déjà, les salles du rez-de-chaussée étaient pleines d'une foule vocifératrice, et l'on entendait des coups de crosse de fusil dans les portes qui résistaient encore. À ce moment, la petite troupe des trois amis fut rejointe par un Nicolas Tournesol qui était l'image même du désespoir. « Ils vont mettre le feu à l'hôtel, sauvons-nous vite » râla-t-il. « Et cette pauvre madame de Méran, vous l'abandonnez ?» goguenarda Rouletabille. « Madame de Méran, elle peut bien aller au diable, c'est elle qui est cause de tout avec cet Hubert de malheur. » « Enfer et mastic !» s'écria Rouletabille. « J'ai oublié mon nécessaire !»« Quel nécessaire ?» demanda Jean, surpris de voir son ami s'arrêter et tout prêt à rebrousser chemin. « Mais mon nécessaire de toilette ?» répondit l'autre, qui était déjà prêt à s'élancer dans l'escalier qu'ils venaient tous de descendre. Jean l'arrêta. « Ah, ça, mais tu es fou !» « Dans une minute, il sera trop tard pour nous échapper et tu penses à ton nécessaire. »« Ah, mon vieux, voilà deux fois que je suis obligé de faire ma provision de liquette. Je ne suis pas millionnaire, moi. Et surtout, attendez-moi là. Ne faites rien sans moi. » Sur quoi, repoussant Jean assez brutalement, il disparut, rentrant dans l'hôtel. « Il a complètement perdu la tête !» s'écria Jean exaspéré. « Sauvons-nous, Odette !» Il a dit que nous l'attendions. Attendons-le, répliqua la jeune fille. Mais nous sommes perdus. Entendez-les tous, ils arrivent. Tenez, les voilà. Raison de plus, reprit Odette, qui semblait maintenant avoir pris son parti de tout et qui s'assit sur un banc de pierre, dans une pose pleine d'une fatale lassitude. Raison de plus, Jean. Vous ne voudriez pas que nous nous échappions et que Rouletabille restât entre leurs mains. Et tout cela pour un nécessaire de toilette, s'exclama Jean qui se sentait devenir fou. Pendant ce temps, M. Nicolas Tournesol, qui, lui, n'avait pas oublié sa valise, pleine de ses objets les plus précieux, et laquelle contenait en outre le dépôt confié à la vigilance du commis voyageur par Rouletabille lui-même, prenait hâtivement le large, à travers les terrains vagues, aboutissant à un cimetière, d'où il espérait, protégé par les morts, pouvoir gagner la campagne. Hélas, son mauvais sort le fit tomber dans un cortège qui conduisait un balogard à son dernier asile, et, à la vue du Roumi, tous se précipitèrent, si bien que quelques minutes plus tard, il était question d'enterrer le vivant avec le mort. Car il y a des moments critiques dans la vie d'un peuple où les fanatiques ne savent quoi inventer pour faire de la peine aux braves gens. Heureusement pour Nicolas Tournesol, qui ne se trouvait point de débiteur à lui parmi ceux dont son sort dépendait, sans quoi son compte était bon et ses factures réglées du coup. Il put, en leur promettant de leur ouvrir toutes grandes les portes de ses magasins du caravansérail, suspendre les coups du destin, et fut ainsi ramené en ville sans trop de dommages. C'est alors qu'il vit passer, dans une grande effervescence du populaire, trois prisonniers, qui n'étaient autres que Rouletabille, Santierne et la pauvre Odette. Des clameurs affreuses les accompagnaient, et la foule commençait même à les lapider. Maintenant, toute la ville retentissait de ce cri « À mort, la Quéra !» Si M. Nicolas Tournesol eût été plus rassuré sur son propre sort, il aurait trouvé là ample matière à philosopher. Le matin même, cette même foule acclamait dans un véritable délire une enfant qu'elle ne connaissait pas, mais qui portait sur l'épaule un petit signe. Le soir, comme ce signe avait disparu, il était question de traîner la pauvre petite aux Gémonies. Et cela au XXe siècle, à deux pas d'un bar où M. Nicolas Tournesol enseignait la veille encore à Vladislas Kamenos l'art de fabriquer le cocktail au marasquin. Et d'une salle de dancing où, quelques heures auparavant, les invités du consul de Valachie s'essayaient au dernier chimie. Progrès humain, où es-tu? Toujours en visite chez Moloch ou Bamboula. Vous connaissez ces gens? Demanda-t-on à Nicolas Tournesol en lui désignant les trois martyrs que l'on conduisait sans doute à leur dernier supplice. Moi, je ne les ai jamais vus, attesta Tournesol avec un grand sang-froid. « Ce sont les voleurs du livre des ancêtres. Ils n'échapperont pas au châtiment. »« C'est justice !» s'écria encore Tournesol. « Et malheur à leurs complices !»« Je comprends cela. On n'a pas idée d'un pareil toupet. Voler le livre des ancêtres. Il y a des gens qui ne respectent rien, des touristes qui se croient tout permis. » Si on les laissait faire, ils démoliraient le temple pour en mettre un petit caillou dans leur collection. C'est honteux. Il y a des limites à tout. Vous avez bien raison de faire un exemple, allez. » Que Rouletabille me pardonne, se disait le commis voyageur en cherchant une excuse à sa conduite nauséabonde et en la trouvant tout de suite. Que Rouletabille me pardonne. Mais je suis bien obligée de le lâcher s'il veut que j'aie quelque chance de faire parvenir le petit paquet qu'il m'a confié à sa destination. Encore une commission dont tu te serais fort bien passé, pauvre Tournesol, mais tu seras toujours victime de ton bon cœur. Pendant ce temps, Une cohorte envoyée par le patriarche était venue arracher les trois prisonniers à la fureur populaire et les conduisait, ou plutôt les jetait, dans une salle du grand palais, d'où ils ne devaient sortir que pour être jugés. Ils étaient tous trois dans un état de consternation assez avancé. Rouletabille surtout faisait peine à voir. Assurément, il paraissait le plus déprimé, et il n'ouvrait la bouche que pour gémir sur le mauvais sort qu'il avait séparé de son nécessaire de voyage. Car au bout du compte, il ne l'avait pas retrouvé, ou plutôt, on ne lui avait pas laissé le temps de s'en saisir. « Mais c'est tout ce que tu trouves à nous dire dans un moment pareil !» s'écriait Jean. « Mais c'est à cause de toi que nous sommes ici !» 2. Où Rouletabille joue son jeu. Mais tous ces reproches ne semblaient pas toucher outre mesure Rouletabille. En vain, Jean, exaspéré, lui criait-il que sa fameuse ingéniosité n'avait d'égal, en de certains moments, que son stupide entêtement. Il n'osait dire sa bêtise. Le reporter n'exprimait aucun regret de ce qui venait de se passer. Et cependant, ce qui venait de se passer n'avait de nom, affirmait Jean, dans aucune langue. Risquer sa vie et celle de ses amis pour rentrer en possession d'un sac de voyage. Odette, excédée, essayait bien de calmer Jean, mais la chose était difficile, car on entendait alors la voix du reporter qui murmurait, comme dans un rêve, « J'aurais dû passer par l'autre corridor, et alors je revenais par l'escalier de service, après avoir eu le temps de prendre mon nécessaire. » « Ah, tais-toi avec ton nécessaire. Je te jure bien que si Odette avait voulu me suivre, je ne t'aurais pas attendu, moi. »« Eh bien, mon vieux, fallait ficher le camp. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je ne peux pas me faire à l'idée de rester encore une fois sans une brosse à dents. » Reprise sur ce ton, la conversation entre Rouletabille et Jean pouvait aboutir à des actes de démence. Heureusement, ou malheureusement, elle fut interrompue par l'entrée d'Andrea et de sa bande armée, qui venait chercher les prisonniers pour les conduire au patriarche. Celui-ci les attendait dans une petite salle qui précédait celle du Grand Conseil et qui n'en était séparée que par un épais rideau de pourpre. Il avait avec lui deux vieillards et le docteur de la bibliothèque. Tous paraissaient plus tristes les uns que les autres en considérant le livre sacré que l'on venait enfin de reprendre au Roumis. Mais dans quel état ? Ils constataient, dans une grande désolation, que les ferrures et les pierres précieuses en avaient été arrachées, et ils échangeaient entre eux les propos les plus funestes pour les barbares qui n'avaient pas craint de mutiler ainsi un pareil chef-d'œuvre. Au dehors, la voix du peuple grondait, puis déferlait par rafales, quand une porte s'ouvrait. « À mort les profanateurs !» Le patriarche s'adressa à Jean et lui demanda d'une voix sévère, par le truchement du docteur de la bibliothèque. « Qu'avez-vous fait des gemmes qui ornaient ce livre, des précieuses miniatures qui le décoraient, des ferrures d'art qui le défendaient contre l'usure des siècles ?» Jean protesta qu'il ne connaissait pas ce livre, qu'il le voyait pour la première fois, qu'il ne l'avait jamais eu en sa possession et qu'il était victime d'une abominable machination. Tous l'écoutaient dans la plus grande incrédulité quand Rouletabille prit la parole. « Il est exact, déclara-t-il, que mon ami n'a jamais eu ce livre en sa possession. Quant à moi, ce n'est pas la première fois que je l'aperçois. Et je vous dirai même que je suis en mesure de vous rendre immédiatement l'un des joyaux qui en ont été arrachés. » Mouvement général. Rouletabille, d'un geste brusque, a plongé sa main dans sa poche à revolver. Andrea bondit, saute sur lui, mais le reporter sort, en souriant de sa poche, un bijou qu'il remet au patriarche. C'est le collier au pendentif orné du signe fatal, la croix et le croissant, qui fermait jadis le livre sacré. Le patriarche, les vieillards, le reconnaissent. Odette elle-même se souvient. Pourquoi Rouletabille sort-il ce bijou dont la possession les accuse plus qu'aucune autre preuve? Le reporter est interrogé. Où a-t-il trouvé ce bijou s'il ne l'a pas volé lui-même? Et tranquillement, Rouletabille répond « J'ai trouvé ce bijou chez mademoiselle. » Il désigne Odette, qui, sous cette attaque directe et à laquelle la jeune fille était si loin de s'attendre de la part de son petit zoo, rougit et s'émeut. Jean, comprenant de moins en moins l'attitude de Rouletabille et voyant l'embarras d'Odette, vient à tout hasard au secours de celle-ci, en protestant contre la dangereuse affirmation du reporter. Jamais il n'a vu ce bijou entre les mains de sa fiancée. Et moi, je répète que j'ai trouvé cette ferrure dans la chambre de mademoiselle de Lavardan. Odette, au milieu de la confusion générale, demande à se faire entendre. C'est d'une voix tremblante qu'elle avoue « C'est vrai, ce bijou était en ma possession, mais jamais je n'aurais cru que Rouletabille oserait m'accuser. Je l'ai jeté dans un tiroir aussitôt qu'il m'eût été donné, et si l'on a pu l'y trouver, c'est que je l'avais oublié, je le jure, tellement j'y attachais peu d'importance. » ajouta-t-elle en se tournant douloureusement du côté de Jean. « Mais ce bijou !» s'écria Jean. « De qui le tenais-tu » « Pardonne-moi, Jean, c'était un cadeau d'Hubert. » « Enfin !» s'exclama Rouletabille. « Je ne le lui ai pas fait dire. »« Au contraire !» releva Jean avec amertume. « Un cadeau d'Hubert, Odette, et tu l'avais gardé ?»« Oh, toi, maintenant, la ferme, mon vieux !» lui jeta Rouletabille. « Messieurs, c'est à mon tour de parler. Du reste, ce que j'ai à vous dire ne sera pas long, et vous comprendrez toute l'affaire. Ce joyau, arraché au livre des ancêtres, a été offert par Hubert à mademoiselle. Or, moi, je fais serment d'avoir vu le livre des ancêtres chez Hubert, qu'il avait rapporté du patriarcat lors d'un récent voyage, et qui vient de le glisser dans le bagage de son rival, mon ami Jean de Santierne. Le voleur, c'est Hubert, vous avez compris. » Alors la voix d'Andrea se fit entendre. « Faisons venir Hubert, il confondra ses fourbes. » Mais au moment où le patriarche acquiesçait à cette proposition qui paraissait des plus normales, Rouletabille supplia qu'on n'y donnât point suite. « Si vous faites venir Hubert, expliqua-t-il, il ne nous confondra pas, il niera. Et moi, de mon côté, en affirmant, je ne le confondrai pas davantage. Il faut que la preuve de l'infamie que je vous dénonce ne vienne ni de lui ni de moi, pour qu'elle acquière aux yeux d'un conseil de sage comme celui que je vois rassemblé ici, une valeur capable d'entraîner votre conviction. Prêtez-moi donc une oreille attentive. Il existe une femme dont vous ignorez la présence dans cette ville et qui en sait long sur Hubert de Lauriac. C'est cette femme que je voudrais vous faire entendre. « Encore la pieuvre !» se disait Jean. « Quel secours peut-il attendre de ce côté ?» Et il voulut le détourner de son dessein, lui rappelant qu'elle avait parti liée avec Hubert depuis Innsbruck et qu'elle n'était certainement venue à Severturn que pour leur porter un dernier coup. Mais Rouletabille ne l'écoutait même point. « Il faut que je retrouve cette femme, » disait-il au patriarche. « Accordez-moi une heure de liberté. » Jean haussait les épaules. « Si tu crois qu'ils vont te laisser sortir comme ça. » « Je vous laisse mes amis comme otage, » proposa le reporter. « Si je ne suis pas de retour dans une heure, vous en ferez ce que vous voudrez. »« Charmant !» prononça Jean, ahuri de tant de simplicité dans le cynisme. « Ah, il nous plaque bien !» « Laisse donc faire, petits os !» émit Odette de sa voix douce. « On a toujours tort de lui en vouloir. Avec lui, on ne comprend jamais qu'après. Tu verras qu'il nous tirera encore de là. » Les vieillards s'étaient concertés. Le départ de Rouletabille ne gênait pas Andrea. Au contraire, il espérait bien qu'on ne le reverrait plus, et qu'alors on en finirait avec Jean. Il fut décidé toutefois par les vieillards que l'on donnerait une escorte au journaliste. Celui-ci accepta de bonne grâce trois gardiens désignés par Andrea. « Avant une heure, je vous les ramène, » dit-il au patriarche en désignant les miliciens. « Mais promettez-moi de votre côté de me garder Hubert. »«
Où est-il ? »
questionna Féodore.
« Ici, »
fit Rouletabille en soulevant d'un geste rapide le rideau de pourpre qui se trouvait derrière le fauteuil du patriarche.
« Ici, il nous écoute. Sans doute trouve-t-il à notre conversation un certain intérêt. »
Hubert avait tout entendu. Il expliqua avec un affreux sourire « Allez, monsieur, allez chercher Madame de Méran. » Et il tourna le dos à Rouletabille, tant il était sûr de lui. Le reporter bondit hors de la salle. Les gardes eurent peine à le suivre. Dehors, les cris de la foule avaient redoublé. Carnet de Rouletabille. Et maintenant, voici le grand jeu. Il n'y a que lui qui peut nous sauver. Mais il est terriblement dangereux. Pour moi, car ce jeu-là, il y en a beaucoup qui ne me le pardonneront jamais. Il faut que les choses en soient à cette extrémité pour que je n'hésite pas à me dépouiller de ma plus riche armure. Allons, pour celle-là aussi, l'heure de la ferraille a sonné. Hélas, je sortirai tout nu pour longtemps de ce bric-à-brac de Severthorn. Mais ne faut-il pas en sortir, et surtout en faire sortir les autres? Allons, du courage. À la pieuvre. À la pieuvre. Ce sont là les dernières lignes que Rouletabille a tracées sur son carnet. Les événements qui suivirent, et qui terminèrent d'une façon si curieuse cette étrange et redoutable affaire, n'ont été connus de la presse que dans leurs grandes lignes, et rapportés assez brièvement. Il y avait, certes, bien des raisons pour que les détails n'en fussent point tout de suite divulgués. Aujourd'hui que ces raisons, que nous ferons bientôt connaître, n'existent plus, nous allons pouvoir, grâce à certains témoignages qui sont parvenus récemment à notre connaissance, suivre les dernières péripéties du drame, à Severthorn d'abord, à Paris ensuite. Les gardes qui accompagnaient Rouletabille avaient reçu l'ordre de le suivre partout, mais de lui obéir en tout. Seulement, ils devaient être de retour au palais une heure plus tard, avec leurs prisonniers. Rouletabille avait donc une heure pour retrouver la pieuvre. Par des chemins détournés qu'il connaissait mieux que ses gardes, il évita le populaire qui s'entassait sur le parvis du temple et faisait en quelque sorte le siège du palais. Ainsi arriva-t-il sans trop d'encombre à l'hôtel des Balkans, où il fut accueilli par les malédictions de Vladislas Kamenos. On avait failli mettre le feu à l'hôtel, et le patron rendait le reporter et ses amis responsables, sinon d'un incendie qui n'avait pas eu lieu, du moins du pillage qu'il avait remplacé. Tous ses clients, naturellement, avaient fui sans payer leurs notes. « Même Monsieur Tournesol ?» questionna Rouletabille. « Vous pensez ? Et il n'est pas prêt de revenir. On a pillé les entrepôts de Monsieur Tournesol comme on a pillé ma cave. Encore un qui vous bénit. »
« Est-il parti tout seul, monsieur ?»
demanda Rouletabille, qui paraissait aussi maître de lui que Vladislas Kamenos était affolé.
« Que voulez-vous dire ?
Vous le savez bien, maître Kamenos, nous sommes venus ici, ces messieurs et moi, dans le dessein que vous nous donniez des nouvelles toutes fraîches de cette jeune voyageuse descendue chez vous il y a quelques jours, et à laquelle monsieur Tournesol faisait une course y assidue.
« Vous voulez parler sans doute de Madame de Méran ?»«
Justement, qu'est-elle devenue ?»«
Je pourrais vous répondre que je ne suis point chargé de la surveiller. Cependant, comme son bagage est encore dans sa chambre, je n'ai aucune raison pour cacher que j'espère la revoir bientôt. Encore une note en souffrance, monsieur Rouletabille. »«
Ne vous occupez pas de cela. Vous serez réglé, monsieur Kamenos. » fit le reporter en se dirigeant hâtivement vers le premier étage.
« Par qui ?»«
Par Monsieur Tournesol. »«
Et vous, où allez-vous comme cela ? chez madame de Méran.
Mais je vous dis qu'elle n'est pas chez elle.
Vous n'en savez rien, je vais m'en assurer.
Mais je vous défends de pénétrer chez elle.
Mais je suis responsable.
Et l'aubergiste se précipitait derrière Rouletabille et ses gardes. « D'abord, la porte est fermée à clé, » s'écriait-il.
« La clé, la voilà, »
fit Rouletabille en la sortant de sa poche.
« Mais comment avez-vous la clé de madame de Méran ?»«
Petit indiscret !» goguenarda le reporter en introduisant la clé dans la serrure. Monsieur Camenos émit alors la prétention d'entrer dans l'appartement avec Rouletabille.
Où madame de Méran est là, où elle n'y est pas,
exprima nettement le reporter.
Si elle n'est pas là, je ressors tout de suite.
Si elle est là, je suis chargé par le patriarche de lui faire une communication qui ne vous regarde en aucune façon, maître Camenos.
Et pour ne pas être dérangé, il fit entendre aux gardes qu'ils eussent pendant quelques minutes à s'assurer de la personne de cet excellent Vladislas. Rouletabille devait alors avoir trouvé madame de Méran dans son appartement, et il avait sans aucun doute les choses les plus importantes à lui dire, car 10 minutes s'écoulèrent, puis 20, puis 30, et on ne le revoyait toujours pas. Maintenant, maître Camenos n'était plus seul à s'inquiéter des singulières façons du journaliste. Cette longue absence commençait à impatienter les gardes, dont le chef responsable avait déjà frappé à différentes reprises à la porte de madame de Méran sans obtenir de réponse. De plus en plus troublé, le milicien s'était informé auprès du patron de l'hôtel des différentes issues que présentait l'appartement. Et quand il sut qu'on pouvait en sortir par un escalier de service qui donnait sur la basse-cour et sur les clapiers, il n'hésita pas à défoncer la porte, derrière laquelle il ne trouva rien, ni Rouletabille, ni madame de Méran, rien qu'un petit lapin, qui, fuyant le tumulte et le pillage du dehors, était venu se réfugier dans l'appartement en y traînant une feuille de chou.
Une feuille de chou et un petit lapin.
Pas mal pour un journaliste.
N'aurait pas manqué de dire monsieur Nicolas Tournesol, si monsieur Nicolas Tournesol avait encore attaché un intérêt quelconque à ce qui se passait à Severthorn. Mais il en était parti, en se jurant bien de n'y jamais revenir, et en n'en emportant qu'une photographie de madame de Méran, cliché personnel et instantané qu'il avait pris un jour entre deux cocktails et qu'il n'avait cessé depuis de porter sur son cœur. Car, quoi qu'il en dit, le souvenir de l'étrange voyageuse troublait encore les jours et les nuits de monsieur Nicolas Tournesol. Mais revenons à nos gardes qui avaient laissé échapper Rouletabille et qui n'imaginèrent rien de mieux, pour essayer de faire excuser leur maladresse, que d'en rendre responsable le patron de l'hôtel des Balkans lui-même. Partis avec Rouletabille, ils revinrent au palais avec Vladislas Camenos, en dépit de toutes ses protestations. Les miliciens prétendaient que sans la complicité de celui-ci, le journaliste français serait encore dans leurs mains. Cette discussion durait encore dans le moment que nos gardes, fort Marie, étaient poussés avec leur Camenos devant le patriarche et les vieillards, et devant Rouletabille. Car Rouletabille, en chair et en os, était là, aussi souriant que les autres paraissaient ahuris.
« Je vous avais donné cet homme à garder, » leur dit sévèrement le patriarche, « et vous m'en amenez un autre. »
Les gardes baissèrent la tête, cependant que leurs prisonniers faisaient entendre de nouvelles protestations. En leur fort intérieur, les miliciens estimaient certainement que la consigne n'avait été qu'à demi violée. Quand on est responsable d'un prisonnier, il vaut mieux en présenter un autre que de ne pas en présenter du tout. Cette façon de voir n'appartient pas exclusivement à l'administration policière de Severthorn. Heureusement, continua la voix grave du patriarche, heureusement que notre prisonnier est un honnête homme et qu'il est revenu ici de lui-même.
En ramenant celle que je cherchais,
termina Rouletabille.
« Madame de Méran ? » s'écria Vladislas Kamenos. Elle était donc dans son appartement ?
Mon Dieu, oui, monsieur.
Eh bien, je vais vous dire la vérité. Je la croyais bien partie avec Tournesol.
Rouletabille haussa les épaules.
Tournesol ! Madame de Méran s'est toujours moquée de Tournesol. Si elle était aujourd'hui dans son appartement, c'est qu'elle m'y attendait, monsieur.
Alors, c'est vous qui réglez la note.
Non, répliqua Rouletabille. Ce ne sera ni moi ni Tournesol qui régleront la note de madame de Méran. Ce sera un autre de ses amis. Ce sera monsieur Hubert de Lauriac. Je demande, messieurs, que l'on mette cette femme en sa présence.
Comme le pensait bien Rouletabille, Hubert avait entendu les derniers propos échangés autour du patriarche. Et ce n'était pas sans une certaine angoisse qu'il voyait venir le moment de sa confrontation avec la pieuvre. Certes, il était bien sûr de celle-ci. Il jouait la même partie. Mais Rouletabille devait avoir manigancé un coup de sa façon qu'il leur serait peut-être difficile de parer s'ils ne s'entendaient point d'abord tous les deux. Ah, s'ils avaient pu avoir un entretien particulier de quelques minutes! Et puis la pieuvre était peut-être mieux renseignée que lui. Aussi ne put-il retenir un tressaillement de joie en apercevant madame de Méran dans le vestibule de la salle du conseil où l'on allait les introduire tous les deux. Enfin, par le plus heureux des hasards, le vestibule resta un instant désert. Hubert courut à la pieuvre.
« Comment vous êtes-vous laissé conduire ici ?»«
Je suis perdu, » lui répliqua l'autre hâtivement. « Rouletabille m'a amené ici par subterfuge et maintenant je suis prisonnière. Tout cela est de votre faute »
continua-t-elle dans une irritation croissante. « Si vous aviez voulu, il y a longtemps que Rouletabille... Mais vous ne pensiez qu'à Odette et qu'à Jean. Ce n'était pas dans le bagage de Jean que vous deviez cacher le livre des ancêtres, mais dans le sac de Rouletabille.
Ne perdons pas notre temps en reproches inutiles. Ils sont tous perdus si nous restons unis. Que veulent-ils de vous ?
Que je leur dise tout ce que je sais de vous. C'est à ce prix qu'ils mettent ma liberté. Rouletabille est arrivé à persuader le patriarche que c'est bien vous qui avez glissé le livre dans le bagage de Jean.
« Mais ils n'ont pas de preuve de cela !»
protesta Hubert d'une voix sourde.
« Me prenez-vous pour un imbécile ? Je vous jure bien que personne ne m'a vu !»
Il n'avait pas plutôt prononcé ces derniers mots que la tenture contre laquelle il se trouvait s'écartait et que le couple se trouvait entouré par une troupe vociférante. Les cigains se précipitaient en hurlant « À mort, tous les deux !» Hubert était agrippé par Andrea, et devant le patriarche et les vieillards, impassibles, le reste de la bande se préparait à faire un mauvais sort à la pieuvre, quand celle-ci, se débarrassant en un tournement de son chapeau, de sa voilette et de sa perruque, apparaissait à tous les regards stupéfaits sous les traits de Rouletabille.
3. Misérere, dit l'homme. Et dans le ciel qui gronde, l'air dit « Miserere, miserere, » dit l'onde. « Miserere, miserere. » La légende des siècles. Cette tragédie trouvait sa fin logique dans cette comédie. Les fourbes seraient trop redoutables s'ils ne rencontraient à quelque carrefour non plus l'épée à deux tranchants, l'arme lourde pour laquelle ils ont toute une armure préparée, mais une épingle d'enfant qui les pique au ventre et les dégonfle comme baudruches. Une farce les jette à bas, et il faut se pencher pour regarder ce qui reste du monument formidable de toile peinte sorti de leur fabrique de mensonges. À ce jeu de carnaval sanglant, Féodore et le docteur de la bibliothèque s'étaient assez curieusement prêtés. Rouletabille, ayant rapporté de l'hôtel les armes guignolesques dont il avait besoin pour mener à bout le seul stratagème qui pût les sauver, n'avait pas hésité à mettre dans la confidence le patriarche et le docteur vieillard. Et ce faisant,
il avait l'intuition qu'il était dans le bon chemin. Féodore, en vrai chef d'État, ne demandait pas mieux que de livrer au loup populaire réclamant sa proie une victime moins illustre que Rouletabille et moins cotée dans le monde diplomatique que Santierne. Il avait déjà reçu à ce propos la visite du consul de Valachie. Sans compter que la perte de ces deux jeunes gens entraînait celle d'une enfant qu'on avait voulu faire reine malgré elle, ce qui, dans tous les pays du monde, n'est un crime que pour les fauteurs de l'aventure. Or, dans cette aventure, le patriarcat n'avait-il point sa part de responsabilité? Voilà plus de raisons qu'il n'en fallait pour que finît par triompher la vérité. Elle apparut éclatante, mais pour certains d'une façon si inattendue que Hubert, profitant du désarroi où les différentes transformations de Rouletabille avaient jeté la grande majorité de l'assemblée, pouvait se dégager d'Andrea, sauter sur la dalle d'une fenêtre, bondir dans un jardin, et entraîner derrière lui une troupe affiliée à sa poursuite, qu'encouragé du geste et de la voix, le patriarche lui-même. Et pendant ce temps-là, que faisait Odette? Eh bien, elle éclatait de rire. Elle riait à Rouletabille, qui n'avait pas encore eu le temps de se débarrasser de sa jupe, et qui, ni homme ni femme, avait bien la mine la plus drôle du monde. J'avais bien dit qu'il n'y avait qu'à le laisser faire, notre petit zoo. C'est donc ça, s'exclamait Jean, que tu tenais tant à ton petit bagage? C'est donc cela que tu avais déjà préparé ta petite histoire? Il était tout prêt, ton petit déguisement. Tu ne pouvais pas nous le dire. Penses-tu, grogna Rouletabille, c'est toujours la même chose. Je t'aurais dit... « Attends-moi, je vais chercher le chapeau et la voilette de Madame de Méran. Tu ne m'aurais pas attendu davantage, s'il n'y avait pas eu Odette. »« Oui, mais il y avait Odette, » dit celle-ci. « Et Odette n'a pas voulu partir sans son petit zoo. »« Odette est un ange, » fit Rouletabille. « Et moi ?» demanda Jean. « Toi, tu es un âne, comme tous les amoureux. »« Merci. » Eh bien, cet âne va te donner un bon conseil, car cet âne imagine que lorsque Madame de Méran saura le tour que tu lui as joué... Laisse flotter les rubans, fit Rouletabille. Ne crains rien, nous n'allons pas moisir dans le pays. Et étant redevenu un Rouletabille correct, il se présenta devant le patriarche et lui tint à peu près ce petit discours. Où l'on rejoindra le coupable, où le coupable échappera. Dans tous les cas, nous n'avons plus rien à faire ici, car dans le premier, nous ne tenons nullement à assister à son supplice, et dans le second, il serait dommage qu'après avoir été reconnu innocent, nous assistions au nôtre. Féodore trouva que c'était là le langage même de la sagesse, et mit immédiatement tout en œuvre pour que Rouletabille et ses amis quittassent sans plus tarder sa capitale. Il couvrit du reste ce départ précipité de l'arrêté d'expulsion qu'il s'empressa de promulguer. Pendant ce temps, on poursuivait toujours Hubert, qui eut l'occasion, en ces minutes épiques, de déployer toutes les ressources, toute la force et tout le courage des héros les plus renommés de l'Antiquité et du Moyen-Âge. Tout se rejoint à travers le temps. Ce qui revient à peu près à dire que rien ne change et que le temps lui-même n'est qu'une illusion. Mais ce cavalier fantastique, entouré d'une nuée d'ennemis qu'il déconfit à grands coups frappés sur un crépuscule de sang, comme s'il frappait à grands coups sur le soleil rouge, nous l'avons vu dans les plaines d'Ilion et dans les cirques de la mort de la chanson de Roland et dans les plaines dorées de la Camargue avant qu'il ne meure, englouti par le gouffre sournois d'un marécage aux confins du pays de la peste. Mort comme un héros, Hubert, dont l'amour avait fait un traître et que la mort régénéra. Ah, ce fut une belle bataille! Quel bondissement sur cet étalon qu'il débarrasse de son cavalier et qu'il lance comme un bolide à travers les poitrines qu'il renverse et l'émeute qui recule! et puis voici les portes franchies. Et l'espace et le grand soir qui tombe, et la fuite, et la liberté peut-être. Mais non, après les hommes, les bêtes. La rue et des buffles sauvages qui viennent l'achever, le déchirer. L'enfer lui a tiré les quatre sabots de son cheval et ne les lui rend plus. Et il descend, lui aussi, cavalier de la mort, au sombre séjour. Un mouvement ne fait que précipiter la fin. Hubert meurt d'avoir aimé Odette et de n'en avoir pas été aimé. Il meurt pour un petit sourire de petite fille qui lui a été refusé. Quoi qu'il ait pu faire. Miserere, miserere, miserere. Pauvres hommes. 4. Où l'on se retrouve à Paris pour une utile conversation. On annonce le prochain mariage de M. Jean de Santierne avec Mademoiselle de Lavardan. Cette union sera célébrée dans la plus stricte intimité en raison du deuil récent de la jeune fiancée. La cérémonie aura lieu en l'église de Lavardan, Bouches-du-Rhône. Rouletabille, qui avait enfin retrouvé ses pénates du faubourg Poissonnière, relisait ces quelques lignes publiées le matin même dans tous les journaux. Il les relisait en fumant sa pipe, et sans autre manifestation des sentiments qui l'agitaient qu'une certaine précipitation dans sa façon de respirer la fumée et de la renvoyer brusquement par le nez. Évidemment, l'on ne pouvait découvrir là le signe de la plus grande satisfaction. Mais pourquoi? Mais en quoi n'était-il pas satisfait? Le savait-il lui-même? Que pouvait-il désirer de plus? Son œuvre n'était-elle point accomplie? Les quelques lignes qui lui dansaient devant les yeux n'étaient-elles point le couronnement de tous ses efforts? Il avait fait autour de lui du bonheur. Que lui fallait-il de plus? C'est la question qu'il finit par se poser et à laquelle il finit par répondre tout haut et assez nerveusement « Rien ». Sur ces entrefaites, la porte de son studio s'ouvrit et Jean parut. « Eh bien, Rouletabille, tu dois être content !» commença Santierne, qui, lui, était rayonnant. « On ne parle que de toi dans la presse. »« Oh, on parle bien un peu de toi aussi, mon cher !» lui répliqua Rouletabille en faisant un léger effort pour dissimuler le rapide émoi auquel il s'était laissé aller au moment même de l'arrivée de son ami. Et il lui désigna les lignes annonciatrices de son prochain bonheur. « Mon Dieu, oui, de moi et d'Odette, naturellement, mais le héros, c'est toi, le Deus ex machina, c'est toi, l'homme qui a vaincu le destin et les bohémiens et mis Severton dans sa poche, c'est toi. Je suis venu pour te dire, mon vieux Rouletabille, qu'Odette et moi serons éternellement tes obligés. Encore une fois, merci. » Je t'ai déjà répondu qu'il n'y avait pas de quoi. Allons, mon vieux Jean, embrasse-moi et retourne vite auprès d'Odette. Tu me chasses? Non, mais j'imagine qu'Odette t'attend. C'est vrai. Elle n'est pas malade? Non, voilà une question. Oh, je te disais cela parce que, tu sais, elle aurait pu t'accompagner. Elle me l'a demandé, mais j'ai trouvé un prétexte. Pour venir tout seul? Oui. Oh, elle ne s'ennuie pas. Elle court les magasins avec sa vieille maman, son ancienne gouvernante. Tu sais bien, celle que Monsieur de Lavardan avait mise si singulièrement à la porte au retour d'un voyage d'Odette chez sa tante. » acheva Jean en rougissant. Quant à Rouletabille, il regarda Jean gravement et s'assit, impassible. « Oui, » reprit Santierne, qui paraissait de plus en plus embarrassé. « J'ai voulu venir seul parce que je voulais te parler de Madame de Méran. »« C'est bien de Madame de Méran que tu veux me parler ?»« Oui, de la pieuvre. » Et d'autres choses aussi, à propos de la pieuvre. d'autres choses dont j'aurais dû t'entretenir depuis longtemps et dont je ne t'ai jamais rien dit par délicatesse, car je te sais si au-dessus de certaines contingences et de certaines gens. D'abord, toi, tu es au-dessus de tout. Comprends-tu ?
Non, je ne comprends pas, et je te prie de t'expliquer bien clairement.
Repartit Rouletabille de plus en plus glacial.
Eh bien, mon vieux, après tout, j'aime mieux ça. Je suis peut-être un ballot, mais voici ce que j'ai imaginé. Je me suis dit, il n'est pas possible que Rouletabille ait trouvé si à propos le truc à Severturn.
Quel truc ?
Eh bien, mais la façon dont tu t'étais déguisée en Madame de Méran, si tu n'en avais déjà un peu l'habitude, y es-tu ?
Continue, tu m'intéresses,
répondit le reporter de plus en plus figé. Si Hubert a été si facilement trompé à Severturn, c'est qu'il revoyait la seule Madame de Méran qu'il eût jamais connue, celle qu'il avait vue à Innsbruck. Et celle qu'il avait vue à Innsbruck n'était-elle point, elle aussi, Rouletabille ? Eh bien, ai-je deviné ?
Tu as eu tort de te traiter de ballot. Tu es d'une intelligence remarquable,
laissa tomber Rouletabille.
Eh bien, ris, mon vieux, ris avec moi, mais je suis enchanté d'avoir deviné.
Mais ris donc.
J'attends pour rire que tu n'aies plus rien à deviner du tout.
Mon Dieu, t'es-tu assez moqué de nous ? Et moi qui m'imaginais que Madame de Méran avait franchi la frontière derrière nous et qu'elle avait partie liée avec Hubert.
Je te crois qu'elle avait partie liée avec Hubert. Elle lui soutirait tous ses secrets.
Ah, tu es vraiment fort. Et moi qui vous espionnais, qui gelais dans la rue à vous attendre. Moi qui rentrais à l'hôtel pour te retrouver en pyjama.
Tu venais de quitter ta jupe et la voilette de Madame de Méran, bandit.
Et tu m'en racontais des histoires sur l'emploi de ton temps, sur la visite dans la chambre de ce diable d'Hubert.
Tout de même, grâce à ton truc, tu savais ce qu'il y avait sur la page romanée.
Déduction remarquable, émit Rouletabille.
Tu savais désormais qu'Hubert, il te l'avait appris lui-même, avait tout intérêt à reprendre Odette pour la livrer à nouveau au Siguin. Et voilà pourquoi tu allais l'attendre sur la route de Severturn.
Ce qu'il y a d'agréable avec toi, déclara le reporter avec une gravité impressionnante, c'est qu'il n'y a besoin de rien t'expliquer.
Eh bien, si, releva Jean. Je vais te demander, mon bon Rouletabille, de m'expliquer quelque chose. Cet abominable Hubert m'avait dit que Madame de Méran...
Ah, nous y voilà.
Que Madame de Méran, c'est-à-dire toi, lui avait montré deux lettres d'Odette attestant qu'elle était venue à Paris chez toi. Tu comprends comment sa confidence a été reçue. Je n'ai même pas voulu en entendre davantage. J'ai compris, depuis, que tu avais dû lui montrer des documents soi-disant importants pour qu'il te montrât le sien et qu'il n'eût aucun doute sur la réalité des mauvaises intentions de la soi-disant Madame de Méran à l'égard de Rouletabille et de moi-même. Mais je puis t'affirmer ceci. C'est que dès la première minute, j'ai été persuadée que ces documents n'existaient pas et que tu les avais fabriqués pour les besoins de la cause.
« As-tu parlé de ces lettres à Odette ?» questionna simplement Rouletabille.
« Non, j'eût été lui faire injure, pas plus que je ne t'en ai parlé à toi, et pour la même raison. »
Rouletabille se leva, alla serrer la main de Jean et lui dit « Tu es un gentil garçon. Seulement, cette fois, tu n'as pas deviné. Les lettres existent, et ce ne sont pas des faux. Les voilà. » ajouta-t-il, non sans une certaine émotion, en les sortant d'un tiroir. « Je n'avais pas encore eu l'occasion de les rendre à Odette. Je les remets à son mari. »
Quant à Jean, il était dans une agitation inimaginable.
« Odette ? Odette est venue ici ? Chez toi ?
Oui, chez moi.
Et je n'en ai rien su ?
Et tu n'en as rien su. Calme-toi, Jean. Je t'ordonne de te calmer. Et regarde-moi. Et ne fais pas la bête. Odette est arrivée ici, affolée de jalousie, voulant absolument savoir ce qu'il en était de toutes tes histoires d'amour avec Calista. Et prête comme une enfant à tous les scandales. C'était une petite fille sauvage. Un être qui m'effrayait, car je ne la comprenais pas encore tout à fait, ignorant alors qu'elle fût si gaine. Ah, je te jure qu'elle t'aime, car à cause de cette Calista, elle te détestait bien. Elle t'a détesté une heure, pendant laquelle sa vieille gouvernante et moi avons eu bien de la peine à la calmer. Songe qu'elle t'avait aperçue dans la rue, passant en auto avec Calista. Enfin, elle s'est mise à pleurer. Alors, il m'a été plus facile de la raisonner. Je lui ai montré des lettres de toi, d'où il ressortait clair comme une aurore à la Vardan que depuis longtemps tu en avais assez de Calista. Enfin, j'ai pu la remettre dans le train avec sa gouvernante, et c'est elle qui, honteuse, m'a fait promettre que je ne te parlerai jamais de son voyage à Paris. Maintenant, tu es au courant, mon vieux Jean. Qu'y a-t-il encore pour ton service ? 5. Où l'on se retrouve à Lavardan pour une cérémonie qui ne surprendra personne. Quand ils ne se disputaient pas, ces jeunes gens s'embrassaient. Jean était si heureux de ce qu'il venait d'apprendre, et ses petites affaires personnelles prenaient décidément une si charmante tournure qu'il embrassa Rouletabille à l'étouffée. « Tu es le plus noble des amis. »« Pourquoi le plus noble ?» protesta doucement Rouletabille en se dégageant. « Je suis ton ami, voilà tout. »«
Voilà tout, mot sublime !»
pontifia Santierre en s'essuyant les yeux. « Eh bien, maintenant, je vais te le dire. »«
Ne me le dis pas !»
fit le reporter en lui ouvrant la porte. « Tu n'as plus rien à me dire. Odette t'attend. Va la rejoindre. Embrasse-la de ma part. Et adieu. »«
Comment, adieu ? Tu ne viendras pas à Lavardan ? Toi, Rouletabille, tu n'assisteras pas à la cérémonie ?
Mon vieux, je veux aller me reposer quelque part, dans les environs, en Amérique. »
« Si tu fais jamais ça, de partir pour l'Amérique avant que nous soyons mariés, eh bien... »«
Eh bien quoi ?»«
Eh bien je croirais... »« Non, je ne croirais pas. »
reprit-il tout à coup en voyant se dresser devant lui un Rouletabille d'une pâleur inquiétante.
« Mais reste » supplia-t-il.
« C'est bon, » fit Rouletabille qui lui tendit une main glacée.
« Je resterai. »
Jean se sauva avec une dernière accolade à Rouletabille, que celui-ci reçut cette fois sans broncher et sans la rendre.
« Je resterai, puisqu'il leur faut encore ça. »
Et il referma sa porte, se rejeta dans son fauteuil, ralluma sa pipe.
« Il est bien gentil, » fit-il tout haut.
« Elle aussi, elle est bien gentille. Ça fera un gentil petit couple. » À ce moment, la porte se rouvrit et un Jean, complètement affolé, se précipita.
« Rouletabille, elle est là !»«
Qui ? Odette ?
Mais non, Calista ! Calista est revenue !»«
Ah, oh, ce n'est que ça !» fit le reporter en se laissant retomber sur son fauteuil.
« Je le savais !»« Comment tu le savais ? Et tu ne me le disais pas ?» « Mais Calista ne peut être revenue à Paris que dans les pires intentions. »«
Il y a des chances, » fit Rouletabille. « Mais tranquillise-toi, mon cher Jean. Je me suis arrangé pour qu'elle n'y revienne pas seule à Paris. Cette pauvre Calista, elle aurait pu s'y ennuyer. »«
Et alors ?»«
Quoi, et alors ? C'est tout. Ne t'occupe pas du chapeau de la petite. Ou plutôt, emmène Odette tout de suite à Lavardan. Et marie-toi bien tranquillement. »
« Je ne serai tranquille que si tu nous accompagnes. »«
Eh bien, je vous accompagnerai. Là, es-tu content ?»«
Odette aussi sera bien contente. Mais dis-moi, Calista, réellement, tu ne crains rien ?»
Rouletabille haussa les épaules. Aussitôt que j'ai su que Calista était arrivée à Paris, et je l'y attendais, je me suis arrangée pour qu'Andrea la rejoignît. Il est arrivé ce matin, Andrea. Il a déjà le grappin dessus, et je te prie de croire qu'il ne la lâchera pas.
Ah, roule ta bille, tu penses toujours à tout. Comment pourrais-je reconnaître jamais... Tiens, mon vieux roule ta bille, si jamais la pieuvre t'embête...
Car c'est une idée fixe que j'ai qu'elle voudra se venger de la désinvolture avec laquelle tu as abusé de sa personnalité à Innsbruck et à Severton.
Comme tu t'exprimes bien, abuser de sa personnalité.
Tu blagues. Eh bien, fais-moi signe et tu verras si je serai un peu là.
Je n'en attendais pas moins de ta part, mon vieux Jean. Je compte sur toi.
Enfer et mastic. La pieuvre n'a qu'à bien se tenir.
Et c'est quelques jours plus tard, dans la chapelle de Lavardan, trop petite pour contenir les amis qui y étaient venus sans avoir été invités, de bons vieux amis de la Camargue et de la Croix et du pays d'Arles, qu'eut lieu le mariage de Jean et d'Odette. Tous les gardiens des mâts environnants et les pêcheurs des Saintes-Maries avaient tenu à apporter leurs vœux à la demoiselle du vieil Castounou, qu'ils avaient vue courir si petite, accrochée à la crinière des poulains lâchés dans les sorgues. Quelques-uns se rappelaient que, dans ce temps-là, ce n'était pas un jeune homme de la ville qui l'accompagnait dans ses randonnées. Toutefois, le nom d'Hubert ne fut pas prononcé. Il y a des petites fées qui ne sont point faites pour le nez de certaines gens. C'est très risqué de vouloir chevaucher derrière elle, hors de son marécage. Il y a toujours quelque part un marécage qui vous prend et qui vous garde. Il y a quelque part la chanson d'un grand troubadour qui dit cela à peu près.
J'aime l'espace et je suis enchaînée. Dans les roseaux, je vais nu-pied. L'amour est Dieu et l'amour pêche. Tout enthousiasme après l'action est désappointé.
Ce Jean de Santierne est vraiment un joli parti. Il y a loin d'un valet de bestiaux à un garçon comme celui-là, si élégant, si fin et si riche, ma chère. Je comprends que l'on soit fier à son bras. Regardez passer Odette, messieurs. Aujourd'hui, partout, du mât à l'église, chante le poète. Les petits oiseaux de l'avenue ne la reconnaissent plus sous son blanc vêtement. « Quelle est cette petite sorcière ? » se disent-ils. Et tout effrayé, il se méfie. Puis, en l'épiant mieux, ils se ravisent et vont la saluer de leur joyeux pépiment. Donc, Jean et Odette se sont mariés bien tranquillement.
« Bien tranquillement ? Est-ce possible ? » ?»«
Oui, parce que, évidemment, Rouletabille avait tout prévu et qu'il avait attaché Andrea à Calista. » Car, dans l'ombre d'un pilier, cependant que défilait le jeune cortège fleuri, il y avait là quelqu'un, ou plutôt quelqu'une, qui, pas plus que beaucoup d'autres de cette foule curieuse, n'avait été invité. Reconnaissez le profil fatal de Calista, ses yeux de colère, sa bouche frémissante, ses dents de louve. Quelque chose brille dans sa petite main nerveuse de cigaine. Ce n'est point la première fois que l'éclair d'un couteau dans cette main-là a menacé Odette. Mais encore une fois, l'éclair s'est éteint. La patte terrible d'Andrea a serré son anneau autour de ce poignet fragile, et l'homme de la route a emmené sa prisonnière. Pour toujours.
Pour toujours. Elle le sait bien. Elle ne résiste même plus. Tout est à jamais fini entre elle et l'Occident. Il l'a rejetée au pied de la roulotte. Elle s'est laissée frapper avec une stupeur heureuse. Que n'a-t-il pas été plus brutal plus tôt? Pour toujours, elle s'est laissée revêtir sans protestation de ses loques bohémiennes qu'elle n'aurait jamais dû quitter. Son aventure était fille de l'orgueil plus que de l'amour. Elle s'était trompée sur elle-même. Comment aurait-elle été comprise d'un roumi? Oh, lassitude! Doux épuisement de la lutte.
enchantement de la défaite. Il y a là, près d'elle, des bras frémissants qui l'attendent, et qu'elle a toujours repoussé parce qu'elle a voulu être une dame de la ville. Ridicule, ridicule. Elle a été une dame de la ville, et elle s'enfermait dans son boudoir pour se chanter à elle-même sur une guitare de bazar ses vieilles chansons de la route, ou pour revoir en silence les campements du soir à l'orée des forêts quand elle s'endormait en caressant le museau de Chuchot, l'ancêtre de tous les chiens de la tribu, dont elle peignait tous les matins avec tant de soin la barbe blanche. Eh bien, Chuchot n'était pas mort, car il savait bien, lui, qu'elle reviendrait. Et il y avait toujours, suspendu au fond de la roulotte, l'antique Guzla, dont les chants avaient accompagné ses premiers pas. Andrea décrocha le vénérable instrument, et les cordes commencèrent à frémir sous ses doigts d'un rythme millénaire. Il était venu s'asseoir auprès d'elle. Alors elle pleura des larmes de soumission et d'acceptation. Et en cachant sa tête dans cette poitrine haletante qu'elle avait tant de fois repoussée, parce qu'elle savait bien que celui-là serait son maître, elle n'était pas malheureuse du tout. 6. Où Rouletabille et Madame de Méran invitent leurs amis à dîner. Quelques semaines après l'heureuse cérémonie, il fut beaucoup parlé dans la presse parisienne d'un personnage qui semblait avoir joué un rôle fort important dans l'enlèvement de Mademoiselle de Lavardan, aujourd'hui Madame de Santierne. Après avoir désigné ce personnage par des initiales qui renseignaient du reste tout le monde, les journaux finirent par le nommer en toutes lettres. Il s'agissait de Madame de Méran, dont on rappela toutes les aventures et que l'on représentait comme ayant joué à la haute administration, on laissait deviner laquelle, un tour pendable, à la suite de quoi le chef de la Sûreté Générale avait offert sa démission. Dans ce scandale, un journaliste célèbre jusque chez les bohémiens, à toi, Rouletabille, se trouvait gravement compromis. On disait même que le chef de la Sûreté ne donnait sa démission que parce qu'on lui refusait l'arrestation de Rouletabille. Enfin, on ajoutait qu'il y avait eu descente de police chez le célèbre reporter, dont on avait, paraît-il, mis sous scellé tous les dossiers et confisqué certains carnets dans lesquels le nom de Madame de Méran, alias la pieuvre, revenait à toutes les pages. L'Époque publia un vague démenti qui ne trompa personne. Dans les coulisses de la presse, les paris étaient engagés. Le chef de la Sûreté sauterait-il? Rouletabille était bien fort avec son journal et Madame de Méran. Un beau matin, on apprit que le chef de la Sûreté Générale était nommé gouverneur d'une de nos plus importantes colonies de l'Afrique occidentale. Rouletabille avait triomphé, mais le chef de la Sûreté n'était pas à plaindre. Bref, tout le monde était content. Dans le même temps, un nommé Crousilla, qui était juge d'instruction dans une petite ville du Midi, fut nommé, on ne sait pas par quelle faveur spéciale, juge au tribunal de la Seine. Le bruit courut qu'il avait rendu un signalé service à Madame de Méran. Quant à Madame de Méran, on ne la voyait toujours pas, et l'on se demandait si, par prudence, elle n'avait pas quitté la France, quand quelques personnalités des lettres et du monde judiciaire, et aussi quelques amis de Rouletabille, reçurent une carte par le truchement de laquelle Madame de Méran et M. Joseph Rouletabille, reporter, les invitaient à dîner. L'affaire fit grand bruit. Il ne faisait plus de doute que Rouletabille affichait Madame de Méran. Et une pareille attitude fut jugée plus que sévèrement, est-il besoin de le dire. Jean de Santierne, qui revenait de son voyage de noces, et qui fut touché par la carte d'invitation à son déboté, en conçut une mâle rage. Sa colère venait moins du scandale de cette petite fête que de l'audace qu'avait eue Rouletabille, d'y inviter non seulement Jean, mais encore Odette. Il eut grande envie, du reste, de ne parler de rien à sa femme, car celle-ci eût voulu, coûte que coûte, l'accompagner. Et il se rendit tout seul à Ville-d'Avray. Car c'était à Ville-d'Avray qu'on devait se réunir, dans un chalet bien connu, au bord de l'étang. Une partie d'amoureux, quoi, à laquelle Rouletabille avait invité ses amis. Peut-être, se disait Jean, pour nous annoncer son mariage. Et il ajoutait, les yeux au ciel, avec un soupir, « Ah, pauvre Ivana !» La première personne qu'il aperçut en pénétrant dans le restaurant à la mode fut M. Crousillat. « Comment ? Vous ici, M. Crousillat ? Il vous a invité aussi ? Pourquoi pas ? Je ne vois pas pourquoi il ne m'aurait pas invité, moi. Vous, un honorable magistrat, vous allez dîner publiquement avec Mme de Méran ? Paraît qu'il se marie, répliqua Crousillat bourru. Comme ça, il n'y aura plus rien à dire. Ah, je m'y attendais, fit Jean consterné. Je ne sais pas pourquoi vous vous frappez comme ça. Il y a là, dans la salle, au bord de l'eau, une demi-douzaine de ses amis qui font un nez. Puisqu'ils s'aiment, il faut en prendre son parti, quoi. À ce moment, un gros garçon, dont la mine devait être à l'ordinaire assez réjouie, mais qui paraissait alors assez mélancolique, s'avança vers Jean et le salua de son nom. Jean rendit le salut en se demandant où il avait pu voir cette figure-là. « Vous ne me reconnaissez pas, monsieur de Santierne ?» dit l'autre. « Permettez-moi de me présenter. Je suis monsieur Nicolas Tournesol. »« Non, ça ne vous dit rien. » Nicolas Tournesol, l'élément artériel du fabricant, du consignataire et du négociant en gros. Nicolas Tournesol qui était à Severturn quand il vous est arrivé tant de malheurs. Je vous ai vu à l'hôtel des Balkans avec Joseph Rouletabille. Ah, parfaitement, monsieur. Enchanté de nous retrouver tous les deux à Paris. Mais Rouletabille, où est-il ? « Il n'est pas encore arrivé, monsieur, sans quoi je serais déjà parti. Le temps de lui remettre un petit paquet dont il m'a confié le dépôt. »« Madame de Méran ne vous a donc pas invité, vous ?»« Je vais vous dire, monsieur de Santierne, Madame de Méran ne m'a certainement pas invité à un déjeuner qui s'annonce comme de fiançailles, mais monsieur Rouletabille a été assez bon, lui, pour penser à moi. »« Alors restez !» « Non, monsieur de Santierne, parce que je vais vous dire. À Severturn, j'ai fait un peu la cour à Madame de Méran. »« Aïe ! Et je tiens beaucoup à l'amitié de monsieur Rouletabille. »« Oui, oui, position difficile. Vous êtes plein de délicatesse, monsieur Tournesol. Mais justement, voici Madame de Méran. Je me sauve. » Il n'en eut point le temps. Madame de Méran, qui en effet était arrivée, avait déjà aperçu M. Tournesol, et elle s'empressa de le remercier d'avoir tout quitté pour assister à cette petite fête intime. Ce disant, elle lui pressait les doigts d'une façon très significative, si bien que M. Nicolas Tournesol ne put s'empêcher de rougir en pensant à l'honneur fort compromis de ce pauvre Rouletabille. Il n'était plus question de délicatesse. Après tout, il n'avait rien d'un Joseph, lui. À la guerre comme à la guerre. À la guerre en dentelle, bien entendu. Tout de même, quand tout le monde fut passé dans la salle à manger, au bord de l'eau, M. Tournesol trouva que Madame de Méran allait un peu fort en le faisant asseoir à côté d'elle, à la stupéfaction de tous, et en se mettant carrément à lui faire du pied sous la table. Carrément était le mot, car elle avait le pied solide, l'effronté. Elle ne ménageait pas les engelures de M. Tournesol qui déjà souffrait le martyre. Rouletabille m'avait bien dit, pensait-il, que cette femme était dangereuse. Le plus extraordinaire était que Rouletabille n'était toujours pas là et que Mme de Méran, trouvant qu'on l'avait assez attendue, avait commandé que l'on commençât sans lui. Un pareil sans gêne avait jeté un froid dans la petite assemblée. Cependant, Jean n'avait rien dit, pas plus que les autres, qui regrettaient déjà d'être venus. Il n'y avait de vraiment à son aise que M. Crousillat, qui n'avait rien perdu de son formidable appétit et qui s'était jeté, dès les hors-d'œuvre, sur une salade russe à laquelle il avait fait autant d'honneur qu'à un plat provençal. En face de lui, un nommé Lacandeur, confrère de Rouletabille à l'époque, le considérait avec émotion, car lui non plus n'avait jamais boudé sur son ventre. Et cependant, il ne mangeait point. Il ne mangeait point, car le mariage annoncé de Madame de Méran et de Rouletabille lui coupait l'appétit. Il ne mangeait point parce que Rouletabille, absent, lui manquait. Quant à un nommé Vladimir, autre reporter et compagnon d'aventure de Rouletabille, il se leva en disant « Ce qui se passe est inimaginable. Je m'en vais téléphoner au canard pour savoir ce qu'est devenu Rouletabille. » Et il se précipita hors de la pièce. « Ce joli garçon a bien tort de se faire du mauvais sang !» prononça de sa voix traînante, au mode chantant, la charmante petite Madame de Méran. « Rouletabille va venir !» S'il est un peu en retard, c'est que nous avons décidé de rompre définitivement tous les deux. » Un « ah » d'étonnement, qui était en même temps, il faut bien le dire, un « ah » de satisfaction, accueillit cette nouvelle inattendue. Et Monsieur Tournesol se prit à rougir davantage, tandis que le pied de sa voisine se faisait de plus en plus pressant. Madame de Méran continua. Et il a été entendu entre nous qu'il ne viendrait ici que lorsque j'en serais parti moi-même. Messieurs, je vais donc vous faire mes adieux. Je ne vous reverrai plus jamais. Ne protestez pas. Je sais ce que beaucoup de vous pensent de moi. Je ne leur en veux pas. La fatalité a voulu que je ne puisse aimer un homme sans faire son malheur. Il n'y a qu'un être ici pour qui je ne suis pas un objet d'épouvante. C'est Monsieur Nicolas Tournesol. Nos cœurs sont bien près l'un de l'autre, et je vous en ferai aussi l'aveu. Nos pieds, depuis le commencement de ce repas, n'ont pas cessé de se toucher. Ceci est une raison de plus, messieurs, pour que je disparaisse. Je veux sauver Monsieur Tournesol de moi-même. Assez de catastrophes. Messieurs, ce n'est pas à un repas de fiançailles que vous avez été conviés, mais à un gala mortuaire. Je vais me suicider. » Tout le monde fut debout. Des visages d'effroi entouraient Madame de Méran. Monsieur Tournesol pleurait. Monsieur Crousillat étouffait et suppliait Lacandeur de lui taper dans le dos. Ça n'était pas une blague à faire. Se suicider au milieu d'un si bon dîner. Jean, lui, depuis quelques instants, ne disait rien, mais observait curieusement Madame de Méran, comme s'il finissait enfin par comprendre quelque chose qui, dès l'abord, avait été au fond de sa pensée, mais qu'il avait rejeté un instant comme une imagination un peu forte. Dans ce discours, Madame de Méran avait conservé un impressionnant sang-froid, et c'est avec un geste d'une grandeur vraiment tragique qu'elle commanda « Et maintenant, faites entrer le croque-mort. » Donna Lucrezia, annonçant aux gentilshommes de Ferrare qu'ils étaient tous empoisonnés et qu'ils n'avaient plus une heure à vivre, ne devait pas apparaître plus fatale que Madame de Méran avec son histoire de croque-mort, et chacun des convives commençait déjà à se demander si cette étrange femme à laquelle on prêtait mille fantaisies n'avait pas voulu se suicider de compagnie, quand la vue du croque-mort lui-même vint heureusement dissiper ce macabre malentendu. Le croque-mort n'était autre que le nommé Vladimir lui-même, qui s'était coiffé du traditionnel haute forme ciré des grandes pompes funèbres et qui faisait là-dessous la plus jolie grimace du monde. En guise de cercueil, il avait apporté sous son bras une petite boîte qu'il déposa sur la table et sur laquelle chacun put lire « Si J. Madame de Méran, alias la pieuvre. » En même même temps, on vit Madame de Mérant se débarrasser en trois mouvements de sa perruque et de tous ses oripeaux féminins. Enfin, la robe elle-même ayant glissé, Rouletabille, dans son fameux complet à carreaux, apparut au milieu des hurlements et des esclaffements de tous. Jean seul, qui déjà avait assisté à un pareil changement de décor, ne fut point touché outre mesure, et il aurait certainement tout deviné dès l'abord si le dîner à Ville-d'Avray n'avait été fixé, par les soins de Rouletabille, à une heure crépusculaire qui enveloppait notre reporter d'une pénombre propice. Enfin, le repas, dans la pièce au bord de l'eau, n'était éclairé que de quelques bougies. Rouletabille, tranquillement, déposait ce qui restait de Madame de Mérant dans le petit cercueil apporté par Vladimir, le refermait et commençait aussitôt son oraison funèbre. Madame de Mérant a été fusillée, il y a quelques années, pour espionnage, dans les fossés de Schlüsselbourg, et elle y a été enterrée. Lors de mon dernier voyage à Pétersbourg, j'ai pu me procurer des papiers qui lui avaient appartenu et grâce auxquels j'ai pu la ressusciter. Elle m'a bien servi auprès d'une administration qui n'avait guère eu de secret pour elle et qui n'en a pas eu pour moi. C'était un jeu dangereux, si dangereux que lorsque dans mes notes ou sur mes carnets je parlais de Madame de Mérant ou de la pieuvre, j'en parlais toujours à la troisième personne. Ainsi, je me gardais contre l'administration en question, dont je redoutais toujours, dans mes bureaux, la visite inopportune. Dans cette dernière affaire des bohémiens, j'ai dû tromper, sous les traits de la pieuvre, non seulement la police, mais bien des braves gens, auxquels je demande très humblement pardon ici. Pardon à Monsieur Crousilla. Pardon à ce pauvre Monsieur Bartolas que je n'ai pas invité, car j'ai redouté pour lui, à une aussi cruelle révélation, la crise apoplectique. Pardon à monsieur le directeur de la prison d'Arles. Ces honorables personnages comprendront que grâce à ce déguisement, j'ai pu savoir bien des choses qui, sans cela, seraient restées pour tous un éternel mystère. Enfin, n'était-il pas permis à Madame de Mérant d'errer sans danger autour des Sainte-Marie de la Mer et d'interroger les bohémiens, dans le moment même que Rouletabille ne pouvait se montrer en Camargue sous peine de mort. Ne vous étonnez donc plus, monsieur Crousilla, si Rouletabille savait si bien ce qui s'était passé dans la grotte. Et ne t'étonne plus toi-même, mon cher Jean, si, en dépit de toutes tes objurgations, je continuais à fréquenter cette horrible femme que tu ne pouvais voir en peinture. « Mais ce n'est pas seulement en peinture que je l'ai vue !» s'écria Jean. « Ah ça, mais qu'est-ce que tu nous racontes? Tu prétends maintenant que depuis le commencement de l'affaire, Madame de Mérant, ça a toujours été toi? Mais moi, je t'ai vue en même temps que Madame de Mérant. Je t'ai vue parler à Madame de Mérant. » « Non, mon Jean, tu n'as pas pu voir cela. Tu as vu Rouletabille déguisé en Madame de Mérant. Parler à... Ne me regarde pas comme ça. Eh bien, oui, tu vas tout savoir. Ce jour-là, ou plutôt ce soir-là, je me suis bien moqué de toi. Je sortais de la prison d'Arles sous le déguisement de Madame de Mérant et tu m'avais aperçu, et tu me suivais. Et j'en étais fort ennuyé. Et je me demandais si tu n'avais pas quelques soupçons de l'étrange comédie que je jouais. Ce secret de la fausse Madame de Mérant m'était trop précieux depuis des années et aussi trop dangereux pour que je puisse le confier à qui que ce soit, surtout à un impulsif comme toi, mon cher Jean. Je voulais donc le conserver pour moi seul, et je résolus de dissiper tes soupçons si par hasard tu en avais eu. J'étais entré à l'hôtel du Forum. Tu étais resté sur la place à regarder mes fenêtres. Je te voyais. Ma chambre était encore plongée dans l'obscurité. Vite, avec un porte-manteau, un traversin, le veston et la casquette de Rouletabille, je fabriquai un mannequin que j'assis sur une chaise, le dos tourné à la place, et j'allumai l'électricité comme si j'entrais, moi, Madame de Mérand, dans la chambre où Rouletabille m'attendait. Et voilà comment tu vis Madame de Mérand parler à Rouletabille. Y es-tu maintenant ? Ah, je te crois que j'y suis. J'y suis bien. Nous y sommes tous. Eh bien, et moi ? Fit entendre la voix doucement pleurnicharde de Monsieur Nicolas Tournesol. Si vous croyez que je n'y suis pas. Cette fois, tout le monde éclata de rire. Il avait une si drôle de figure, ce pauvre Tournesol. Quand je pense, ajouta-t-il, que depuis le commencement du repas, il me fait du pied sur mes engelures. Ah, je me souviendrai de mes conquêtes à Severton. Consolez-vous, brave Tournesol, lui jeta Rouletabille. Vous avez trouvé en moi un ami. Et ça vaut mieux quelquefois de trouver un ami que de trouver une femme. Et puis, comme femme, voyez-vous, je sens que je vous aurais trompé. Maintenant, finissons-en avec Madame de Mérand. Elle a été fusillée une fois. Nous allons la noyer aujourd'hui. J'espère qu'après ces deux exécutions, elle sera bien morte. Et ils la noyèrent, en effet, d'abord dans les flots du Champagne, ensuite dans l'étang où la petite boîte fut jetée, après qu'on l'eût chargée de cailloux, pour que Madame de Mérand ne remontât pas encore une fois à la surface. Cette petite cérémonie venait à peine d'être terminée qu'on entendait l'appel du téléphone. La candeur se précipita dans la pièce à côté, puis revint presque aussitôt. « Cette fois, c'est sérieux » fit-il. « C'est le patron lui-même qui téléphone du canard. » « Dites à Rouletabille qu'il accourt. Il s'agit d'élucider une affaire qui vient d'éclater et qui est extrêmement mystérieuse. »« Naturellement, » fit Rouletabille en se levant. « Le contraire m'étonnerait. Mais il aurait pu attendre à demain. Quel métier !»« Tais-toi donc !» lui jeta la candeur. « Tu l'adores, mais cette fois, tu m'emmènes avec toi. »« Et moi aussi !» supplia Vladimir. « Et toi ?» reprit Rouletabille en se retournant du côté de Jean avec un bon sourire. « Tu ne demandes pas à repartir avec moi ?»« Non, » fit Jean en lui serrant affectueusement les mains. « Moi, je vais rejoindre Odette. »« Embrasse-la de ma part et rends-la heureuse, mon bon Jean. Ou je te tue. » Tu ne me tueras pas. Grâce à toi, rien ne peut troubler notre bonheur. À moins que cette terrible Calista. Ah, pas peur. J'ai dit à Andrea de lui passer un anneau dans le nez.